SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Il est 13h sur SBS Audio, mesdames et messieurs. Bonjour, nous sommes le samedi 27 avril 2024. Merci beaucoup d'être avec nous. Je m'appelle Marianne Murat. Nous allons passer une heure ensemble. Une heure durant lesquelles nous allons parler notamment des commémorations de l'Anzac Day. De nombreux hommages ont été rendus aux soldats australiens et néo-zélandais. On en parle dans un instant, mais d'abord, comme tous les samedis, on commence par la rétrospective. Que s'est-il passé un certain 27 avril ? Réponse dans un instant. Aujourd'hui, dans notre rétrospective, Valentine Sabourot nous parle de vacances au soleil, encadrées par de gentils organisateurs. Est-ce que cela vous dit quelque chose? On parle bien sûr du Club Med, créé il y a 74 ans, le 27 avril 1950. Retour sur ses origines avec les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel et quelques voix de cinéma bien connues.
Bienvenue au club, je suis Marcus, le chef de village. Je m'occupe de vos petits problèmes, de vos petits soucis, afin que vous vous sentiez complètement en vacances.
Le 27 avril 1950, l'ancien champion de water polo belge Gérard Blitz fonde le Club Méditerranéen, une association à but non lucratif qui va révolutionner les vacances. Moins de deux mois plus tard, les premiers vacanciers testent sa formule neuve et sympathique lors d'un séjour tout compris, axé sur les vacances, le sport et la nature. C'est un succès et le début d'une grande aventure qui, malgré des hauts et des bas, continue d'accueillir en 2024 des milliers de gentils membres à travers le monde. Né le 28 février 1912 à Anvers, Gérard Blitz vient d'une famille de diamantaires et de sportifs. Lui se distingue jeune au water polo, il participe d'ailleurs au JO de 1936. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est envoyé dans une unité composée uniquement de sportifs. Il est arrêté, relâché, puis il intègre la résistance. Après la guerre, il vit en Suisse, où il est chargé par le gouvernement belge d'aider les prisonniers de guerre à se réinsérer. Il les accueillera dans deux hôtels en Savoie, qui porteront le nom de « village de rapatriés ». Cette expérience est souvent présentée comme la préhistoire du Club Med, c'est elle qui amènera Blitz à développer son concept. L'association est créée le 27 avril 1950 et la première publicité paraît. Vacances aux îles Baléares, Espagne, avec le club méditerranéen, prix pour 15 jours, 2650 francs, tout compris, voyage, nourriture, séjour. Dès l'ouverture, il accueille 300 vacanciers. Le confort est plutôt rustique. On dort sous des tentes qui proviennent des surplus militaires américains et les commodités sont partagées. La plage, quant à elle, est à 12 km. Mais tout est propice à la convivialité. Repas partagés sur de grandes tables de 8, tutoiement obligatoire, sport et loisirs à volonté, dont la plongée, le ski nautique, la pêche ou la pétanque. L'objectif affiché, développer le goût de la vie en plein air et la pratique des sports. En fait, c'est un vrai projet de société.
Est-ce que c'est votre opinion que le français est beaucoup moins casanier, de moins en moins casanier ?
Oh, il éprouve un besoin considérable de découvrir le monde, en tous les cas. Et nous essayons de lui faire découvrir le monde en même temps que de satisfaire son besoin de vacances. Parce que, si vous voulez, il ne s'agit plus de tourisme pur, il s'agit avant tout de vacances.
Changement de tente pour les prochains villages. Elles seront fournies par la société Trigano et Fils, trouvée dans l'annuaire. C'est ainsi que Gilbert Trigano rencontre puis s'associe à Gérard Blitz. Au fil du temps, les tentes finissent par devenir des cases et des destinations s'enrichissent. Clé du succès, l'ambiance décontractée et surtout les gentils organisateurs géo, je cite, de joyeux lurons charismatiques, sportifs et facétieux, recrutés selon des critères jamais vus, selon les mots du documentaire Club Med, les coulisses d'une success story. Témoignage de l'époque.
Est-ce que vous trouvez que la formule du club est une formule jeune ?
Oui.
Pourquoi ?
Par son ambiance, par son caractère même.
Oui.
Par le fait de coucher dans des cases, de se laver en groupe, enfin de manger en groupe. Par ces jeux également, son organisation, quoi, c'est les spectacles qu'il donne.
Petit à petit, le Club Med innove, crée les mini-clubs pour enfants, investit la montagne, achète des voiliers et monte en gamme. Mais les vacanciers n'adhèrent plus autant. La faute en partie aux bronzés, qui tout à la fois popularisent extraordinairement et regardissent complètement le Club Med.
Pourquoi venez-vous au club ?
C'est-à-dire que mon mari et moi, on était assez réticents vis-à-vis du club, enfin le côté groupe, tout ça. Mmh. Et puis, de très bons amis à nous, ils sont allés, on s'en est venus emballer, alors on s'est dit pourquoi pas.
Moi j'ai fait une connerie, je suis venu avec ma femme.
Les guerres, puis le Covid, impactent aussi le mythique opérateur de vacances, qui a cependant retrouvé la forme en 2023. En Australie, le Club Med n'a eu qu'un village, c'était à Lindman Island, dans le Queensland, mais il a fermé en 2012.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler.
Où t'es, papa, où t'es ? Où t'es, papa, où t'es ? Où t'es, papa, où t'es ? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es ?
Stromae, le chanteur belge avec son titre Papa Outé. On marque une très courte pause, messieurs, dames, et on se retrouve dans un instant avec l'historien Romain Fati. On en parlait en sommaire, les commémorations d'Anzac Day cette semaine. Eh bien, il y a quelques temps, Jean-Noël Ducasse parlait aux spécialistes de l'histoire australienne après la publication de son livre sur la bataille de Villers-Bretonneux. Interview.
SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio, du lundi au vendredi, à 18h. Et regardez notre journal télévisé sur SBS, tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
Eh bien, j'ai le plaisir d'avoir sur les ondes de Radio SBS Dr Romain Fati. Vous êtes spécialiste de l'histoire australienne et aussi chercheur associé du Centre d'histoire de Sciences Po à Paris en France. Bonjour et bienvenue à nouveau sur les ondes de Radio SBS.
Bonjour et merci de m'accueillir.
Dr Fati, on se parle cette fois sur la publication de votre livre Our Corner of the Somme, Australia at Villers-Bretonneux, paru chez Cambridge. Et vous présentez, je crois, un autre aspect assez intéressant du rôle de l'Australie sur le front occidental pendant la Première Guerre mondiale.
Tout à fait. Alors en fait, ce livre utilise des archives françaises pour apprendre de l'histoire australienne. Et en réalité, il s'intéresse aux commémorations australiennes qui ont eu lieu en France de 1918 à nos jours. Comme vous le savez, en Australie, l'Anzac est un élément très important de l'identité nationale australienne. Et souvent, la presse australienne dit « les Français se souviennent ». Mais en réalité, on sait bien qu'en France, à part les personnes qui vivent sur l'ancien front ouest, peu de Français sont au courant que les Australiens se sont battus pendant la Première Guerre mondiale en France. Et donc, ce livre s'attache à considérer, à étudier toutes les commémorations que les Australiens ont pu avoir en France. Et il y en a eu beaucoup. de 18 à nos jours.
Est-ce que vous croyez que beaucoup de Français sont conscients du sacrifice des Anzac sur le front occidental entre 1916 et 1918?
Très peu en réalité. Au cours de mes recherches, généralement quand c'est hors de la Somme, très peu de Français sont au courant que les Australiens se sont battus parce que c'est pas nécessairement détaillé dans le programme scolaire français. On parle de l'Empire britannique et donc les personnes qui ont lu et se sont intéressées le sauront, mais beaucoup de personnes n'en ont pas conscience. Et les sites commémoratifs australiens ont également pour but de faire connaître aux Français l'engagement australien dans la Grande Guerre. On le rappelle, hein, 45 000 Australiens sont morts sur le front ouest en France et en Belgique pendant la Grande Guerre. 360 000 se sont battus à l'étranger pendant la Grande Guerre. Pour une nation qui était à l'époque moins de 5 millions d'habitants, c'est un engagement massif. Alors certes, pour la France, bon, il s'agissait de 5 divisions australiennes quand la France en avait à peu près 110. Mais quand on se place du point de vue proportionnel, pour l'Australie, c'est un engagement tout à fait important.
Vous parlez donc de l'identité nationale australienne dans ce coin de France, dans le nord de la France ?
Oui, tout à fait, parce que ce que le livre met à jour, c'est que les gouvernements australiens ont souvent utilisé l'Anzac pour construire un récit national, et en utilisant la scène, si je puis dire, française, c'est-à-dire en mettant en scène leur identité devant les autres pour la définir à l'intérieur de l'Australie. Et par ça, j'entends que depuis 18, le récit qui a été fait de l'Anzac a fluctué. D'abord, il s'agit de commémorer les morts au sens du deuil et d'ériger des mémoriaux pour s'en souvenir. Dans les années 50, 60, 70, peu d'Australiens finalement commémoraient l'Anzac, si ce n'est les vétérans eux-mêmes. Mais à partir des années 90, on a observé ce que les historiens ont appelé un retour de l'Anzac. Et ce retour de l'Anzac en Australie, qui s'est traduit par la multiplication de services commémoratifs et par l'augmentation des personnes qui se rendaient à l'Anzac Day, elle s'est aussi traduite en France par la multiplication de mémoriaux et de services commémoratifs des Australiens. Par exemple, il est intéressant de constater que le gouvernement australien a financé plus de plaques commémoratives, de mémoriaux et de cérémonies à propos des Anzac en France entre 1998 et aujourd'hui qu'il ne l'avait jamais fait entre 1918 et 1938.
Ce mémorial du Sir John Monash Center à Villers-Bretonneux, qui coûtait très cher, quelques 100 millions de dollars, je crois que vous dites que les politiques l'utilisent aussi pour leur propre agenda.
Alors oui, ça c'est un sujet quelque peu épineux. Déjà, pour recontextualiser ça, il faut savoir que l'Australie est le pays qui a dépensé le plus d'argent dans la commémoration du centenaire de la Grande Guerre entre 2014 et 2018. Elle a dépensé plus que tous les autres pays ensemble, c'est-à-dire plus que la France, la Russie, la Grande-Bretagne, les États-Unis, etc., qui se sont battus dans la Grande Guerre et qui ont eu un rôle autrement plus important en termes de taille. Mais pour l'Australie, c'est tellement important dans le récit national qu'il s'agissait vraiment de mettre l'Anzac au premier plan du récit national. Et pourquoi ? Et donc on arrive au Sir John Monash Center qui a été inauguré à Villers-Bretonneux pour la modique somme de 100 millions de dollars, c'est-à-dire le musée militaire le plus cher en France qui ait été construit, parce que ça permet à la nation d'éviter un certain nombre de questions. Si, par exemple, votre lieu de mémoire nationale se trouve à Gallipoli, ou à Villers-Bretonneux, ou à Fromelles, ou à Bulcourt, eh bien, il s'agit de commémorer l'extraterritorialité du fait national. Or, on sait très bien que commémorer l'Australie en Australie est difficile du fait de la dépossession de la terre aux aborigènes. Donc le lieu par essence de l'identité nationale australienne est difficile à localiser à l'intérieur des frontières de l'Australie du fait d'une histoire très difficile et qui est encore aujourd'hui contestée et débattue. Et donc l'Anzac et la commémoration de leur engagement en France permet d'établir une vitrine dans laquelle les Australiens peuvent exprimer une certaine fierté. Et ceci a été identifié très clairement par le Premier ministre John Howard dès le milieu des années 90 et a été depuis continué par des premiers ministres de gauche comme de droite d'ailleurs.
Dans la media release, il y a cette citation que je vais traduire et je cite « Il y a un vide évident entre la manière dont les institutions gouvernementales officielles commémorent Anzac Day et ce que les Australiens ordinaires accomplissent lorsqu'ils se rendent sur le front occidental et visitent ces tombes qui ont un sens profond et personnel. Je crois qu'ils sont là pour rendre hommage à leur père, à leur grand-père, à leur oncle et autres proches tués pendant cette Première Guerre mondiale. »
Alors absolument. En fait, ce que mon livre met à jour, c'est qu'il y a un certain décalage entre la politique mémorielle du gouvernement et la manière dont les Australiens eux-mêmes commémorent les Anzac. Par ceci, j'entends que les sites commémoratifs qui ont été développés par le ministère des anciens combattants australiens en France ont une vision qui n'est pas nécessairement historique. On est plutôt dans la création d'identité nationale, on est plutôt dans la gloire, dans les héros, c'est-à-dire un discours qui n'est pas historique et pas historisé et pas contextualisé, qui est là pour que les Australiens soient fiers de leur passé. Et donc on pourrait croire que les Australiens y croient, puisque de toute façon c'est écrit par le gouvernement. Pas du tout. Moi je me suis intéressé à regarder les commentaires que les visiteurs australiens écrivent dans les livres d'or des cimetières militaires en France. Et sur une trentaine d'années, j'ai étudié comment, par leurs propres mots, ils faisaient état de leur séjour commémoratif. Et effectivement, à certains égards, la fierté est présente, mais il s'agit en fait plutôt de la tristesse, du deuil, de la commémoration personnelle. Alors là où l'État impose un discours mémoriel glorifiant, c'est pas tout à fait comme ça que les Australiens... D'ailleurs, c'est pas du tout comme ça que les Australiens qui vont sur le front ouest s'approprient ce passé. Au contraire, il y a encore une douleur, un deuil, dans la mesure où, pour certains, on n'en est qu'à une, voire deux générations de la Grande Guerre, des personnes qui ont 80 ans et qui, aujourd'hui, peuvent se permettre, du fait de l'avion, d'aller en Australie, qui ont vraiment l'impression, d'aller en France, pardon, sur les tombes de ces soldats et ont vraiment l'impression d'accomplir un devoir familial plus qu'un devoir national.
Dr Fatih, je rappelle que votre livre « Our Corner of the Somme, Australia » à Villers-Bretonneux a été publié chez Cambridge. Et merci de votre intervention sur les ondes de Radio SBS en Australie.
Eh bien, merci beaucoup à vous et je vous souhaite une très belle journée.
Chris était sa mollisse, mon amour sans rival.
Ah que la vie est belle, ah que la vie, ah que la vie est belle.
Ah, que la vie est belle, c'est le titre de la chanson, cette chanson qui est elle-même si belle, celle de Zao Tsagazan qui fait partie de notre sélection musicale sur SBS French. On fait un saut dans le temps, messieurs, dames, retour en 2002, lorsque l'acteur Gérard Jugnot était sur nos ondes pour parler de la sortie du film Monsieur Batignol, une interview toute en humour malgré le sujet important véhiculé par le long métrage. Archive.
Chers auditeurs, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire, tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives.
Je pense que quand on est à l'étranger, d'un seul coup, on se sent plus responsable de sa langue que quand on est en France où on est baigné dans le français. On fait pas attention quand je suis à l'étranger ou même quand je suis dans les radios, dans les interviews, d'essayer de parler un français de bonne qualité.
Oui, et en même temps, il y a cette responsabilité. Il y a aussi une sorte de code de déontologie dans le sens qu'il y a tellement de formes de français, finalement, on se demande si, effectivement, on pouvait quelquefois se permettre quelques écarts de langage, mais il faut quand même faire très attention. Surtout que les écoles et les universités nous écoutent aussi.
Oui, non, mais en plus, il faut garder le français
oui.
parlé chez nous pour pouvoir, justement, dans les films, dans la littérature, quand on emploie la meuf ou c'est chambé, ça veut dire quelque chose. Mais si on le dit, nous, au premier degré, ça devient des choses qui ne sont plus perceptibles. C'est comme c'est comme la sémiologie du costume. Commencer à mettre un smoking avec des tongs, ou des nu-pieds, ça veut dire quelque chose. Mais si vous le détournez tout le temps, on ne sera plus dans la vérité du signe, quoi. Enfin bon.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a cette attitude aussi vis-à-vis du français, mais en même temps, ça date énormément. J'allais dire le vernaculaire, mais l'argot, tout simplement. Et il y a plusieurs sortes d'argot. Alors, quel argot choisit-on? Est-ce qu'on choisit l'argot étudiant?
Oui, dans les films contemporains que j'écris ou que je coécris, j'emploie assez peu d'argot parce qu'il n'y a rien de plus qui se démode que l'argot.
Ah oui, je suis tout à fait d'accord.
Il vaut mieux employer un langage imagé. C'était le grand succès de Audiard ou de Janson, de Prévert. Ils employaient des images, ils jouaient avec les mots. Et les gens sont très sensibles aux mots. Moi, je viens de jouer une pièce là pendant un an sur Sainte-Beuve et les amours de Sainte-Beuve et d'Adèle Hugo, la femme d'Hugo, enfin, qui était comme ça un sujet au départ extrêmement ennuyeux ou en tout cas aride et
très littéraire.
Une pièce contemporaine qui a été écrite par quelqu'un donc d'une cinquantaine d'années, qui a écrit avec une très belle langue, et j'étais assez surpris de voir à quel point les gens fonctionnait parfaitement. Et une fois qu'on avait passé le cap du vouvoiement et de certains mots qu'on n'emploie plus, les gens adorent les mots, en fait. Et même les gens simples, même les gens peu éduqués adorent les mots. Et il y a beaucoup d'émissions en France, comme les Grosses Têtes ou comme les émissions de déconnade, entre guillemets, où les gens sont fascinés par des gens comme Jean-Yann ou comme Jacques Martin ou Francis Blanche, des gens de Poiret Serrault, Guitry. Enfin, les gens populaires aimaient beaucoup Guitry parce qu'ils y trouvaient un langage qui ne possédait pas eux, mais qui comprenaient parfaitement.
Parce que ce sont des orfèvres des mots.
Absolument, oui.
Récemment, j'ai interviewé Agnès Varda qui parlait des glaneurs et moi. Et les glaneurs et la glaneuse, parce que en anglais, c'était the gleaners and I. Je lui disais, mais c'est incroyable, parce que vous êtes en train de filmer des laissés pour compte, finalement. Et pourtant, leur langage est très beau. Et c'était des gens qui étaient véritablement les paumés de la société, mais leur seule dignité, c'était leur capacité de s'exprimer.
Absolument, mais absolument. Je pense que moi, je me bats beaucoup dans ce domaine. Je pars du principe que tous les problèmes qu'on peut avoir en banlieue sont évidemment des problèmes sociaux, souvent, mais sont souvent des problèmes culturels, et que ce n'est pas uniquement le foot qui peut régénérer ces mômes, et qu'à partir du moment où on n'a pas de langage, on tape dans la gueule du voisin quand on n'arrive pas à communiquer, parce que le langage, c'est ça qui vous paie. Et il y avait une chose très belle que disait un auteur, toujours est-il qu'il avait dit une chose très jolie, il disait « Méfiez-vous, si vous avez 100 mots de vocabulaire, vous aurez une vie de 100 mots. C'est-à-dire vous aurez des bonheurs de 100 mots, vous aurez des plaisirs de 100 mots, vous aurez des tristesses de 100 mots, des malheurs de 100 mots, des angoisses de 100 mots. Et ça, c'est triste. C'est triste parce que plus on a de mots, plus on peut exprimer les choses. Évidemment, sans rentrer dans la psychanalyse à outrance, c'est important de pouvoir s'exprimer. Sinon, quand on ne sait plus s'exprimer, on tape dans la gueule de son voisin.
Et c'est précisément ça. C'est pour ça aussi que les petits garçons en général tapent alors que les petites filles parlent.
Oui, oui.
Et au jardin d'enfants, c'est évident. Gérard Jugnot, on parle d'enfants justement, et votre film, Monsieur Batignolles, est une merveilleuse démonstration que l'enfant est le père de l'homme.
Absolument, et l'enfant peut apprendre à l'homme, à devenir un homme. C'est ça qui nous avait intéressé, nous, avec Philippe Lopez, mon scénariste, c'est qu'on cherchait à confronter deux destins. Le destin d'un homme ordinaire, d'un Français ordinaire, et d'un autre Français, enfin non, il ne l'était pas, mais d'un Juif qui était persécuté pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ce qui nous intéressait, c'était cet affrontement entre Goy et Juif. Et d'un seul coup, on trouvait que si on avait confronté deux adultes, ça aurait tourné justement peut-être à une certaine agressivité, ou à de la bagarre, ou à ce qu'on a vu, ce qui était arrivé. Donc le fait que ce soit un enfant qui apprenne la vie à M. Batignolles désarmait ces conflits, et surtout permettait à un plus large public de comprendre parfaitement ce dont on parlait. C'est ça que je trouvais assez clair dans le message du film, tant est qu'il y en ait un, qui est un message d'humanité, de compréhension. À partir du moment où c'est un enfant qui explique à un adulte, on comprend plus et on peut toucher un plus large public.
Oui, et ce qui était particulièrement réaliste, c'est que cet enfant était enfant gâté, donc c'était effectivement un petit garçon adorable par certains moments, mais qui était aussi assez insupportable par d'autres moments, et d'ailleurs qui fait presque capoter toute l'opération de sauvetage.
Non, ce qui était important, c'était de montrer que c'est pas parce qu'il était victime qu'il était zéro faute.
Oui.
Ça, c'était important. C'est pour ça que c'était aussi important que moi, qui ne suis pas juif, je puisse parler de ce sujet. C'était aussi le point de vue de quelqu'un qui n'était pas juif. Et donc, je charge ce Français moyen, ce Français ordinaire. Mais on est obligé aussi, pas de charger, mais ce qui était intéressant, c'était de montrer que c'était un enfant gâté, que les problèmes qu'il pouvait avoir avec Batignolles étaient aussi des problèmes de classe, des problèmes de bourgeoisie face au petit commerce. des problèmes sociaux. Bien souvent, les problèmes de racisme sont liés à des problèmes sociaux, à des problèmes d'argent, à des problèmes de pouvoir et de classe. C'est vrai que moi, je ne voulais pas, c'est pas parce que ces gens ont été persécutés, anéantis d'une manière abominable, qu'ils n'avaient pas de défauts. Les bourreaux, il s'agissait aussi, pas de leur trouver des excuses, parce que, en tout cas, des raisons. Moi, je dis toujours à mon fils, ce n'est pas parce qu'on a des raisons qu'on a forcément raison. Mais moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi. Pourquoi les gens font ça? Pourquoi les gens, à un moment donné, vont être des héros, c'est des mots un peu larges. En tout cas, pourquoi les gens vont bien agir et, ou ne pas bien agir? Qu'est-ce qui fait qu'on peut passer d'un côté ou de l'autre?
Oui, mais il y a quand même au départ, déjà, je dirais, par exemple, le beau-fils ne pourrait jamais être une personne bien.
Oui, lui, enfin...
Il était caricatural, c'est vrai.
C'est vrai aussi. On n'est pas dans la caricature. Moi, je fais une comédie. Comédie dramatique.
Oui, c'est une comédie dramatique.
Donc, si vous voulez, il y a on est dans une œuvre de fiction. Et donc, je pense qu'on n'est pas dans une caricature, on est dans un archétype.
Oui.
Quand on me dit ça, j'ai monté un peu en bagarre contre ça, parce que je trouve que c'est pas le bon terme, le caricature. Caricature, ça veut dire forcer des choses qui ne sont pas vraies. Or, tout ce que dit Jean Lamour, enfin Jean-Paul Rouve, mais on est vraiment en deçà de ce qui se disait à l'époque. Il y a deux moments dans le film où il lit des journaux. Je peux vous dire que moi j'ai lu ces journaux qui avaient été publiés en 42, c'est effarant ce qu'il se disait. Et donc ce que lui dit, on est vraiment en dessous de la réalité. Donc on n'est pas dans la caricature, on est même plutôt dans... On a plutôt à
neutraliser un peu.
À neutraliser un peu ça. Donc c'est ça qui était important maintenant. C'est vrai que c'est des choses qu'on ne peut plus dire, et heureusement. Là où ça commence à devenir grave, c'est quand on ose les dire. Vous savez, combien de fois dans la vie vous dites des choses terribles au fond de vous, hein,
oui.
Vous ne direz jamais à personne. Vous direz, oh merde, j'ai pensé ça, quelle horreur. Comme dans Tanguy, il y a une chose assez jolie. C'est pas grave, ça fait partie de la nature humaine, ça. Mais la vie en société, elle doit faire que... On ne doit pas le dire, ça. On doit le refrainer, on doit le combattre. Et ce que je trouve terrible dans les idéologies comme le nazisme, le fascisme ou l'extrême droite, c'est que... Ou même l'extrême gauche.
Voilà, parce qu'ils sont vraiment cousins.
Oui, il ne faut pas rêver. Hein.
Mais revenons à votre film.
On parlait du langage tout à l'heure, on retombe là-dedans.
On retombe dans le langage et la façon dont il peut être manipulé.
Manipulé et comment il peut, oui. Parce que ce qui était intéressant, moi, ce qui m'intéressait dans le personnage de Batignolles, c'est que c'est quelqu'un qui ne pense pas par lui-même. Quelqu'un qui ne pense que par lieu commun, par cliché.
Mais c'est sa survie aussi.
C'est sa survie, il est protégé. On lui a dit que c'était comme ça, on lui a dit que les Juifs étaient ci, on lui a dit que c'était ça, que la plague Athénan. Hein. Donc il est dans une espèce de cocon, de cliché, de lieu commun que j'ai bien connu, parce que mes parents, ma famille ont baigné là-dedans. Et d'un seul coup, ce petit garçon, parce qu'il est très intelligent et parce qu'il est dans une situation terrible, il sonne à la porte. C'est un peu comme le destin qui sonnerait à la porte de Batignolles et qui va lui ouvrir les yeux. Et qui va lui ouvrir aussi les oreilles, quoi. Et qui va, d'un seul coup, le faire penser par lui-même, d'une pensée autonome, et qui va après retraduire par cette scène que je trouve très belle, où il est face aux gendarmes, où d'un seul coup, comme un avocat, par empathie, il va endosser la personnalité d'un juif, et il va dire, voilà, tout ce que j'ai entendu, voilà ce que je vous le balance, pour essayer de faire honte à ce gendarme, qui, ça ne fonctionnera pas, et c'est d'ailleurs un coup de pied dans les couilles qui le sauvera, alors que...
Absolument.
Un très beau langage, donc c'est là aussi on arrive à la limite du langage.
Mais absolument. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'il s'est complètement identifié à ce moment-là.
Absolument, oui.
Parce que ça a été sa libération. Sa libération à lui.
Ouais, c'est un phénomène d'empathie, c'est un mot que je connais depuis un an ou deux, que j'oublie très vite, très souvent, mais qui me convient beaucoup et qui convient beaucoup à mon travail de metteur en scène auteur, c'est-à-dire qu'on se met à la place des gens avec une bienveillance, comme ça, pour essayer de les comprendre et pour essayer de comprendre le monde.
Et c'est en allant vers les autres qu'on se comprend soi-même aussi.
Peut-être. C'est une autre chose. Ça serait compris, je vous appellerai.
Gérard Jugnot, ce qui est merveilleux, c'est qu'à la fin du film, cet homme qui était fruste et qui ne voulait pas trop penser, et d'ailleurs qu'il disait aux autres, ne pensez pas trop, parce
absolument.
Qu'il ne voulait justement pas avoir de problème.
Faites comme moi, ne pensez pas trop.
Voilà.
Quand on y pense, faites comme moi, pensez pas trop.
Bon, eh bien, à la fin du film, il remercie l'enfant.
Oui.
Parce que l'enfant l'a libéré.
C'est une phrase qui est très jolie qu'on avait, je crois que c'était Philippe qui avait trouvé ça, et je trouvais ça en plus très joli parce que c'est une phrase de commerçant. Quand il lui dit merci et non, et moi je lui réponds, c'est moi qui te remercie. Et c'est une chance, on dit ça dans les commerces, quand on dit merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. C'est une expression de
presque automatique.
De commerçant. et qui est détourné, que je trouve très joli. Et
qui est pensé et réfléchi quand il le dit, parce qu'il est vraiment très très ému quand il le fait. Gérard Junot, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur le film? On parlait de langage, on a commencé d'ailleurs avec la langue, et à un moment donné, l'occupation nazie est particulièrement effrayante, et c'est justement dans ce colonel Spreich qui parle de la langue, et il dit des choses. D'abord, quand la danseuse disparaît, il dit ils ont disparu comme l'armée française. Donc le premier sujet de mépris et de moquerie. Et puis tout est provisoire, n'est-ce pas, mademoiselle? Il est vraiment l'avocat du diable.
Le film, dites-moi.
Ah mais vous savez que quand je vois un film, pour moi c'est quelque chose d'incroyable, parce que je trouvais que chacune des répliques avait été extrêmement travaillée, dans le sens que elle avait été réduite à l'essentiel. Absolument l'essentiel.
Oui, mais c'est assez rare que des gens exagèrent du cinéma et ce regard. Moi, je vous en félicite et j'en suis très fier. Je suis très fier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de connotations, comme quand Batignolles dit « je peux pas être partout », qui est un clin d'œil à « je suis partout », le journal de la collaboration. Mais ça, il faut vraiment connaître bien les choses.
Oui, non, il y a des moments super comiques, justement parce que c'était décalé par rapport à ce que l'on sait selon les références. Mais
il fallait quand même qu'on reste dans un réalisme.
Oui, absolument.
C'est pas une fable, c'est une comédie dramatique. Parce que moi j'aime la comédie, j'aime faire rire les gens, et je trouve que le rire donne un petit peu de légèreté au drame, et que le drame donne du poids et de la substance à la comédie. Donc j'aime ce mélange. Mais quand vous parlez de... C'est vrai que Spreich dit à un moment, le Gaulois...
Mais il ne reste que 20 mots.
Et c'est vrai qu'il n'y a que 20 mots dans le de Gaulois.
Mais ce qui était incroyable, et on revient à l'occupation, c'est qu'il connaissait parfaitement et l'histoire de France et les différentes références pour pouvoir les détourner à leur intérêt.
Absolument. Et en plus, si vous voulez, il y avait une grande collaboration avant Pacifique entre la France et l'Allemagne avant-guerre. Donc moi, j'étais assez stupéfait. On a beaucoup travaillé sur des documents, on a beaucoup lu, on s'est beaucoup renseigné, pour pas dire de bêtises, sur tout ce qui est la confiscation des biens. Ça n'a jamais été traité quasiment, sur les déménageurs qui venaient chercher les meubles, tout ça, tous ces entrepôts, il y avait tous les pianos, tous les meubles, tout, c'est insensé ça. Mais... C'est vrai qu'il y avait les Allemands, et ça a trompé les Français. Ils voulaient faire en fait une sorte de Disneyland pour les combattants. La France était le pays, le gay Paris, où on venait se détendre avant de repartir vers le front de l'Est, qui était abominable.
Oui, oui, c'était le repos du guerrier.
Absolument. Et puis bon, au départ, les Français étaient contents, comme on leur a fait croire que tout se passerait bien. Et puis l'anéantissement de l'armée française a été quelque chose de terrible pour les Français.
Et c'est pour ça qu'il en rit, le colonel Spreich. Il en rit parce qu'il dit qu'ils ont disparu comme l'armée française.
Les Allemands n'y croyaient pas. Les Allemands, quand il y a eu la Blitzkrieg, ils croyaient que ça allait durer un an ou deux et qu'on allait résister. Ah non. Et là, l'effondrement de l'armée, ça a été quelque chose d'énorme pour les Français. Et moi, ça m'intéressait en tant qu'homme de voir comment j'aurais réagi dans c'est pour revenir à cette culture allemande. Il y a ce mot formidable que j'adore, une femme comme ça dans un dîner allemand, enfin avec des Allemands pendant l'occupation, et il y a un Allemand qui dit « Ah, la France, les peintres, la musique, tous ces beaux châteaux, toutes ces choses, ces merveilleuses choses de la France, les paysages de la France. Hein. » Et la femme dit au colonel allemand « Écoutez, quand vous serez parti, revenez. »
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Devenu celui que tu voulais être, ton corps maintenant est à la route au dos. Ma peau de dame.
Gilles Kaplan sur SBS Audio avec le titre « Daronne ». Il y a quelques mois, nous rencontrions Antoine Blanchet-Quérin, fan de la A-League, le championnat de football australien. Il nous partage sa passion tandis que lui habite en France. Rencontre.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment, en ligne.
Et aujourd'hui, on va parler de football et quelque chose de vraiment très sympa qu'on a pu découvrir dans les derniers mois. Enfin, ça fait un petit moment qu'on suit, mais j'ai vu quelques nouveautés dans les dernières semaines. On a Antoine Blanchet-Quérin qui est avec nous. Bonjour Antoine.
Bonjour Christophe, ça va ?
Ça va impeccable. Alors, on va parler de football. Vous êtes de Outback Football. Je pense que vous êtes le Français, mais même en Australien. Vous êtes le Français qui connaît le mieux la A-League, le championnat de football australien. C'est un peu une passion pour vous. En tout cas, vous avez dédié un compte Twitter et pas mal d'informations qui filtrent à travers ce compte Twitter, Outback Football. Vous êtes un peu le monsieur A-League du football. Pourtant, vous êtes basé en France.
Ah, c'est ça. J'essaye de représenter au mieux le championnat australien et d'attirer l'éveil en fait de suiveurs français qui pourraient se dire ah tiens là-bas ça joue au football, c'est intéressant, il y a un développement, il y a toute une histoire et aussi qui est très intéressante. Et mon idée c'est d'amener les gens vers de nouvelles contrées, donc l'Australie, et leur dire qu'à travers le football il y a tout un tas d'histoires qui peuvent être racontées. Et j'ai de la chance, c'est que cette année il y a eu beaucoup de Français qui ont rejoint le championnat.
Oui, tout à fait. Et on va parler du championnat, bien sûr, parce que la A-League, c'est le championnat australien. Mais la France connaît l'Australie. Sur les deux dernières Coupes du Monde, c'est quand même comme ça que la France a commencé sa quête envers à la fois une Coupe du Monde ou une finale de Coupe du Monde.
Oui, j'ai eu beaucoup de chance d'ailleurs sur les tirages. Ça m'a donné davantage de personnes qui m'ont suivi. C'est-à-dire que, ben, en fait, oui, l'Australie, et surtout qu'elle a tenu tête à l'équipe de France. On se rappelle qu'il y a eu un 2-1 décroché difficilement par les Français. Et dernièrement, l'Australie avait ouvert le score contre la France.
Ce 2-1, j'étais dans le stade à Kazan. C'était incroyable, avec un maillot bicolore. Parce que je suis les deux, je suis français et australien, donc j'avais la chance de pouvoir sortir mon maillot bicolore.
Eh ben, moi j'ai pas eu cette chance-là, mais en tout cas, je pense que ça devait être vraiment sympa à suivre pour toi, qui est binational du coup.
Cette A-League, en fait, parlez-nous un petit peu de cette passion, parce que il y a quand même pas mal de joueurs français, vous le dites, qui sont aujourd'hui en A-League, mais il y en a pas mal qui sont passés aussi par la A-League. On pense à Ben Kalfala, il y a eu aussi Gallas, par exemple, qui sont passés à Perth avec plus ou moins de succès. Faut pas se voiler la face, mais c'est une ligue qui attire encore quelques joueurs français.
Oui, alors moi je suis arrivé après Gala, je suis plutôt arrivé donc sur le premier cité Faïd Ben Kalfala. J'ai eu la chance de voir jouer Eric Baoteak et Jacques Fati, qui était le premier français à m'accorder une interview. Et ce qui se passe en ce moment, moi qui peux échanger avec certains joueurs, c'est qu'il y a davantage d'échanges entre la France et l'Australie. On peut penser à Denis Genro qui est parti à Toulouse. C'est qu'en fait Faïd Ben Kalfala est devenu agent de joueur, et en fait il permet en fait d'augmenter les relations franco-australiennes. Donc on a vu des joueurs comme Mohamed Touré quitter Adélaïde pour aller à Reims. C'était un joueur qui a pour agent Faïd Ben Kalfala. Et à l'inverse, il y a des agences françaises qui sont venues faire leur marché en France. Donc du coup, on se retrouve avec, par exemple, trois joueurs français au Wanderers de Sydney.
D'accord, c'est quand même c'est impressionnant, parce que bon, OK, on comprend qu'il y a le côté business hein qui fait ça emmène les joueurs ici, mais c'est une ligue qui est aussi un peu intéressante, parce que c'est une ligue qui est un peu qui est complètement différente. Où est-ce qu'on pourrait jauger à votre avis cette ligue? Est-ce que c'est de la bonne division 2? Est-ce que, parce que bon, c'est clairement pas de la Ligue 1, c'est clairement pas au niveau de la Premiership anglaise, et faut pas se voiler la face hein. Mais ça serait où? Ce serait sur une Ligue 2? Ce serait où l'équivalent de la A-League?
Eh ben, c'est une excellente question qui a toujours été très difficile à expliquer, parce que c'est très difficile de comparer les championnats. Mais maintenant, avec tous les systèmes de data, il y a des systèmes de puissance d'équipe qui existent avec Opta, par exemple. Et je me suis amusé à faire ça. Et ben, on peut comparer le championnat australien à peu près à la Ligue 2 française. Certains clubs vont être plutôt en haut du tableau, d'autres plutôt vers le bas, puisque, ben, forcément. Mais sinon, il y a une ligue qui s'approche énormément de la ligue australienne, c'est le championnat d'Écosse, qui est très ressemblant, et d'ailleurs on retrouve énormément de joueurs qui jouent, qui font des transferts donc d'Australie vers l'Écosse, parce que c'est un championnat qui est très similaire, qui est, on va dire, très physique aussi. Et donc voilà, si on pourrait trouver une cousine européenne au championnat d'Australie, ce serait l'Écosse.
D'accord. Qu'est-ce qui vous passionne, vous, dans cette A-League? Parce que on sait qu'ici, en Australie, la A-League a eu plutôt ses hauts et ses bas en termes d'audience. Les stades sont pas forcément pleins. Il y a d'autres sports, hein, propriétaires. Il y a le rugby ici. Il y a le football australien, plus sur Melbourne et dans le Victoria. Mais la A-League a un peu du mal à trouver ses marques, en tout cas sur le long terme. Mais vous, par contre, vous êtes passionné de ça.
Alors, pour la genèse de l'histoire, mon meilleur ami a été fan en fait du Wellington Phoenix. Enfin, il suivait un petit peu des équipes un peu dans le monde entier, et j'avais commencé à m'intéresser. Et j'avais commencé à écrire sur divers blogs sur Internet, et c'est resté parce que j'ai trouvé un intérêt, et j'avais trouvé tout de suite des gens pour me lire et me rendre et rendre mon travail intéressant, que ce soit par des Australiens qui apprenaient le français ou des Français qui étaient intéressés par le football en Australie. Et c'est resté de fil en aiguille. Moi, j'ai eu de la chance parce que je suis arrivé dans une année où Sydney remportait la Ligue des Champions, et ensuite l'Australie était championne d'Asie. Donc j'ai eu un très beau tremplin, et ensuite ça s'est suivi par la Coupe du Monde, les deux Coupes du Monde d'ailleurs, où la France et l'Australie ont été ensemble, et aussi je pense que je suis arrivé dans une bonne décennie, car j'ai eu la chance de suivre un développement qui est immense, par exemple avec des nouvelles franchises. Il y a aussi des développements sur les académies, des joueurs qui ont fait des transferts intéressants en Europe. Et prochainement, il y a toute la nouvelle division qui est dans les papiers, donc qui est très intéressant à suivre, et dont en France, il y a des gens qui s'intéressent à ce championnat qui est très très loin. Donc c'est toujours un plaisir d'en parler, même si je fais ça bénévolement. C'est pas du tout mon métier.
Cette A-League en elle-même, vous parlez qu'il y a une deuxième division qui est un peu dans les papiers. C'est important quand même d'avoir un système de relégation et de promotion, parce que ça revigorifie un peu la ligue en fait en elle-même.
Alors, mon avis là-dessus, c'est forcément
Ça se débat.
Ça se débat parce que je suis pas natif d'Australie, donc je peux pas donner du crédit à un système qui pour moi est. J'aime pas du tout le format fermé comme celui-ci. Moi, j'aime bien que les clubs montent et descendent, et puis ça permet au moins de pas avoir des clubs qui, peut-être 10 journées avant la fin n'ont plus rien à jouer, et ne servent pas à grand chose. Donc, l'idée d'une promotion et d'une relégation, pour moi, c'est forcément ce qu'il y a de mieux, parce que, d'un point de vue, c'est vrai que d'un point de vue français et même européen, on ne voit pas l'intérêt d'une ligue fermée, et on a bien vu qu'avec la Ligue des Champions qui aurait voulu passer dans un système fermé, la levée de bouclier qui a été mise en place par les supporters et les clubs pour dire non, mais c'est inadmissible, personne ne veut ça. Donc moi, je suis forcément très enthousiaste face à cette ouverture de championnat que j'espère le plus rapidement possible.
D'accord. L'Australie, pour vous, c'est un pays, si on extrapole simplement en dehors du football, vous êtes venu en Australie, est-ce que c'est un pays qui vous fait rêver? Est-ce qu'il y a un aspect culturel de l'Australie aussi dans tout ça, dans cette passion pour la A-League?
Eh ben non, pas du tout. Pour être sincère, j'ai jamais eu d'intérêt particulier pour l'Australie en termes de pays, mais je trouve que c'est très intéressant. En fait, avec le football, j'apprends toute son histoire, par exemple les vagues d'émigration qui ont permis de créer des clubs de football, où les migrants européens, en fonction des années, se sont rassemblés dans des clubs de football, comme à Melbourne ou choses comme ça. Et donc du coup, c'est assez intéressant d'apprendre l'histoire de l'Australie. Par exemple, dernièrement, je sais qu'en avril, il y a le Anzac Day. Et donc du coup, c'est de pousser un petit peu, se dire pourquoi, qu'est-ce qu'ils fêtent, et d'en parler un peu sur mon compte Twitter. Donc d'une part, j'apprends aux gens ce que c'est, et moi j'étoffe ma culture. Après, l'idée d'aller en Australie, forcément, c'est un peu plus intéressant pour moi, puisque si je pouvais participer aux phases finales du championnat, ça pourrait être intéressant. Mais non, c'est pas prévu en tout cas dans un futur proche.
D'accord, faut vous trouver un bon sponsor pour vous envoyer jusqu'ici en fait.
oui, parce que c'est vrai que les prix des billets d'avion sont assez excessifs, mais bon, c'est un bon voyage.
comment vous voulez développer votre activité? Parce que là aujourd'hui, vous parlez d'un compte Twitter. Est-ce que vous avez pour but d'étoffer un petit peu ça, d'écrire, de sortir peut-être une publication un peu plus tangible, un blog, un site, comment vous pensez développer tout ça?
Je pense que je suis passé avant, j'avais mon nom de Twitter en fait était A-League France. Mais en fait, ce nom me restreignait trop. Par exemple, la Coupe du Monde féminine rentrait pas dedans. Donc, j'ai décidé d'appeler ça Outback Football. Donc, j'avais déjà demandé à des Australiens si le terme Outback était pas connoté négativement, parce que ça aurait pu faire mauvaise presse. Après, moi, j'exerce sur le site lucarneopposé.fr, où j'écris tous mes billets. Et je pense rester là, même dans un futur proche et même à long terme, parce que le côté bénévole et rédacteur bénévole me permet de faire uniquement ce que j'aime. Je n'ai aucun intérêt, je n'ai aucun, on va dire, contrat à écrire tant d'articles par jour. Après, moi, mon objectif, c'est grâce, en fait, au lien d'avant beaucoup plus fort entre l'Australie et la France avec les divers transferts, c'est de parler plutôt des jeunes qui sortent du lot parce que les jeunes jouent au football en Australie davantage que dans les autres sports. Donc il y a une génération qui arrive et qui va arriver qui sera d'autant plus talentueuse que ses aînés. Donc l'idée, c'est surtout de suivre ces jeunes et de, s'ils arrivent en transfert en France, leur dire, bah voilà, moi j'ai vu tous ces matchs, je suis capable de te dire qu'il peut être intéressant ici, 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 et que ses points faibles sont ici, ici, ici. Donc voilà, c'est plutôt le côté connaître les futures pépites australiennes tout en parlant du développement du championnat en Australie.
Ok, bah c'était très sympa de se parler. Est-ce que faudrait qu'on reste en contact parce que c'est vrai que moi je vous suis sur Twitter et c'est presque un petit peu la meilleure façon de suivre la A-League parce que c'est en français, c'est plus sympa.
Ben c'est l'idée et en fait j'ai eu beaucoup d'Australiens qui apprennent le français en deuxième langue j'imagine et en fait qui m'avaient envoyé quelques messages en disant bah, c'est très bien parce que c'est pas des mots qui sont très difficiles et ça permet d'associer une passion, le football, et de se dire bah je peux améliorer mon vocabulaire. Donc je me dis bah si je peux aussi profiter à des Australiens qui veulent apprendre le français, tant mieux. Et je suis très content que SBS m'ait ouvert les portes puisque bah c'est un peu une belle gratification pour moi.
Ça marche. Merci Antoine. C'était Antoine Blanchet-Kerin d'Outback Football. Vous pouvez le suivre sur Twitter. On va mettre tous les liens sur notre podcast. Merci Antoine.
Merci Christophe. Merci à tous.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Je fais des heures sup, les nouvelles du jour ne sont pas bonnes. Guerre à l'Est, effet de serre, qualité de l'air dégradée. Serré dans le métro, serré au cou, je défais mon col.
Chanson Heure Sup de Raphaël pour finir cette émission. Car voilà, messieurs, dames, cela fait déjà une heure que nous sommes ensemble. Merci d'avoir suivi ce programme. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite un merveilleux samedi après-midi. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est demain. Même fréquence, même heure.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.